La première,
9h-10h,
l'histoire continue,
Bertrand N, Hélène Maquet.
C'est honteux de nous voir partir comme ça sans rien, sans un franc, sans rien du tout.
Vous croyez que l'usine peut fonctionner sans chef et sans patron?
Oui. On peut mettre un mannequin dans le KGB et il remplacera le chef.
Vous seriez d'accord de travailler pour un autre patron?
Non.
Et si on licenciait notre patron, si on occupait notre usine, si on travaillait sans chef?
Et si on tentait l'aventure de l'autogestion? Dans la Belgique post-68, ces questions traversent le monde du travail.
Des expériences d'autogestion sont menées par des ouvriers et souvent des ouvrières.
Une de ces expériences a particulièrement marqué l'histoire sociale wallonne, c'est l'occupation et l'autogestion de l'usine de jeans Salic à Carnion dans le Borinage.
Aujourd'hui, une page oubliée de notre histoire sociale au temps de l'autogestion. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Histoire Continue.
Un numéro qui replonge donc dans un épisode important de notre histoire sociale, ce qu'on pourrait appeler le moment de l'autogestion au mi-temps des années 70. L'esprit anti-autoritaire de 68 semble infuser dans le monde du travail, dans le monde syndical et fait naître de nouvelles formes de lutte.
L'autogestion, c'est donc le contrôle d'une usine ou d'une entreprise par les travailleurs, les travailleuses qui prennent des décisions de manière participative, égalitaire, une révolution de l'intérieur en quelque sorte.
Oui, et sans spoiler la fin de cette histoire, c'est un peu comme le Titanic, on connaît la fin, on sait que ça n'a pas marché. La plupart de ces expériences autogestionnaires restent des expériences et débouchent souvent sur des échecs. Seules de rares tentatives ont tenu plus de quelques années. Ce n'est pas le cas de Salic dont on va parler aujourd'hui, où après quelques mois, les ouvrières se sont retrouvées au chômage.
Alors dans cette émission, on va tenter de comprendre pourquoi et comment les expériences d'autogestion ont fleuri dans les années 70. Pourquoi Salic est un cas emblématique pour l'autogestion, mais aussi pour le combat féministe, puisque ce sont à Salic des ouvrières qui se rebellent. Nous verrons que la dimension de genre est en effet assez marquante dans les expériences d'autogestion.
On va aussi essayer de comprendre pourquoi, dans l'immense majorité des cas, ça n'a pas fonctionné, et ce qu'il reste aujourd'hui des idéaux fracassés de l'autogestion. Pour en parler avec nous, d'abord Gaëlle Demey. Bonjour.
Bonjour.
Gaëlle Demey, vous êtes responsable nationale des femmes CSC. La CSC qui était à la pointe de ce combat autogestionnaire dans les années 70, plus que la FGTB, on verra pourquoi plus tard. Mais d'abord pour vous, le nom Salic, ça évoque quoi ?
Oui, ça évoque d'abord un risque de fermeture d'entreprise et donc des ouvrières majoritairement qui ne se laissent pas abattre et qui décident de prendre leur outil avec l'expertise qui est la leur et qui décident à un moment donné de s'organiser entre elles, de développer de nouvelles compétences et aussi de faire vivre la démocratie d'une autre manière. Donc c'est effectivement un projet qu'on peut qualifier maintenant d'utopique, mais qui était vraiment porté et soutenu aussi par les organisations syndicales, notamment en tout cas par mon organisation syndicale très fort à l'époque et par le mouvement ouvrier dans son ensemble.
Avec nous également l'historien de l'ULB, Nicolas Verskuren, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de l'histoire sociale et ouvrière et parmi vos travaux, vous êtes intéressé aux expériences d'autogestion en Belgique. Pour vous, Salic, ça évoque quoi ?
Le mot a été un peu déjà dit, donc c'est l'utopie, c'est-à-dire dans les années 70, c'est peut-être un des derniers moments où dans le monde ouvrier, on a eu encore des velléités, on va dire, révolutionnaires, en tout cas de changer le monde à travers les luttes sociales, les luttes ouvrières, et donc avec des aspects très très positifs, des aspects peut-être plus négatifs, mais vraiment cet espoir, en tout cas, même à la micro-échelle, je dirais, mais de changer la vie.
On se réjouit de vous entendre tous les deux sur ces expériences d'autogestion. Avant ça, on se replonge en 1978. Nous sommes dans le Borinage.
Août 1978, à Carnion, dans le Borinage. L'usine de jeans Salic tourne au ralenti. Dans l'immense bâtiment blanc et gris, des machines à coudre à perte de vue. D'habitude ici, le bruit est aussi infernal que les cadences. Des civières sont d'ailleurs placées en bout de ligne pour recueillir les ouvrières victimes de fréquentes syncopes. Mais aujourd'hui, le calme règne, entrecoupé seulement par le bruit des aiguilles de 4 ou 5 machines. D'ailleurs, dans l'allée, il y a une poussette où dort un enfant, à côté d'une poupée plus grande que lui. Aujourd'hui, les ouvrières font comme chez elles, parce que depuis quelques jours, c'est chez elles. Elles occupent leur usine et se lancent dans l'autogestion.
Vous croyez que l'usine peut fonctionner sans chef et sans patron ?
Ben oui. Pourquoi pas ?
Pourquoi pas ? On a bien commencé la chaîne ainsi. Je ne vois pas pourquoi il y aurait un patron pour nous diriger.
Là, plus ou moins, le chef, il était jusque là pour nous dire combien il fallait en faire.
Voilà.
Alors, automatiquement, le travail, c'était déjà nous autres qui le faisaient, donc je ne vois pas qu'est-ce que...
Quelle différence ?
On peut mettre un mannequin dans le KGB et il remplacera le chef.
Imagine que quelqu'un veuille acheter l'usine.
Oui.
Vous seriez d'accord de travailler pour un autre patron ?
Non. Non, on ne voudrait pas ça.
L'usine Salic va fermer. Dans le Borinage dévasté par le déclin industriel, les ouvrières savent que le chômage les attend. Et pour longtemps, car les usines ferment un peu partout. Alors quand l'industriel du textile Pierre Salic dépose le bilan, le coup est rude.
Ça allait fermer, il n'avait rien à faire. C'est honteux de nous voir partir comme ça, sans rien, sans un franc, sans rien du tout. Et nous avons 23 ans de maison, 30 ans de maison, je suis toute seule avec un gosse et je dois partir sans rien. Et les grosses légumes se sont remplis les poches, tout le monde s'est rempli les poches.
La faillite de Salic est très médiatisée, car la marque de jeans est une des plus populaires de Belgique. L'usine est aussi moderne et rentable. Le pays découvre un phénomène relativement récent et qui confirme définitivement la fin des Trente Glorieuses, la délocalisation. L'industriel Pierre Salic préfère vendre des jeans qu'il importe de pays à bas coût, le Maroc ou la Tunisie, et délaisse ses usines belges dans lesquelles les pouvoirs publics ont pourtant lourdement investi. Le 3 août, une assemblée générale refuse pourtant la grève et l'occupation. Mais le 17 août, une centaine d'ouvrières refusent de se résigner et forcent les portes de l'usine. L'occupation commence, guitare à la main.
Nous, à Salic, on occupe.
On occupe.
Nous, à Salic, on se bat.
En quelques jours, l'occupation se transforme en expérience d'autoproduction. Il s'agit dans un premier temps de vider les stocks, de terminer les productions en cours et de les vendre pour payer les préavis et les primes des travailleuses.
Pourquoi continuez-vous à occuper l'usine après la faillite ?
Eh bien, nous voulons continuer d'occuper pour pouvoir vendre les stocks donc qui restent ici dans l'usine, pour voir finir les pantalons commencés, pour qu'on puisse nous payer nos préavis et toutes nos primes, enfin pour qu'on puisse avoir tout ce qu'on a droit.
Même si j'étais contre l'occupation, bien je me suis mise avec elle et je continue à occuper.
Cette expérience d'autoproduction divise les syndicats. La FGTB n'y est pas favorable, au contraire de la CSC. Le syndicat chrétien pousse, lui, à l'autogestion, sur le modèle de LIP, une fabrique de montres de Besançon en France, tombée en faillite en 1973. Reprise par les ouvriers et les ouvrières, LIP est devenue un emblème des luttes post-68 avec un slogan « On produit, on vend et on se paye ». L'aventure LIP crée un nouvel imaginaire social, une utopie qui intéresse beaucoup les Belges, André Dartevel, réalisateur de la RTBF, se rend d'ailleurs à Besançon.
Le mouvement de LIP, pour moi, c'est le type même de la lutte exemplaire. Je sais bien qu'on a abusé beaucoup de ce mot depuis 68. On l'a employé pour beaucoup de grèves. Mais je crois que là, c'est un mot qui a tout son sens. Et pour moi aussi, il est très important parce que Il fait très peur au gouvernement. Il fait plus peur au gouvernement que n'importe quel mai 68. En mai 68, c'était les idées. C'était les idées, beaucoup de belles idées. Et maintenant, c'est les fêtes. C'est les idées traduites en action. Donc c'est très dangereux, je pense. Et ce qui m'a semblé très important aussi dans la lutte, c'est que les travailleurs ont refusé des tabous. Les tabous de la légalité, par exemple, les tabous de la légalité bourgeoise, qui étaient encore très ancrés dans la classe ouvrière, ben l'IP les a fichus en l'air. Et c'est pour ça que ça représente un espoir immense pour toute la classe ouvrière, et c'est pour ça qu'il y a tant de solidarité autour de ce mouvement.
À la suite de l'IP, des dizaines d'expériences d'autogestion vont fleurir en Belgique, le plus souvent soutenues par la CSC et le mouvement ouvrier chrétien. Dès 1973, les grès de Bouffioux, le Val Saint-Lambert en 1975, les poêleries Somi, les capsuleries de Chaudfontaine, les textiles d'Afika à Tournai, les sablières de Wautier-Braine, et un cas très médiatique en 1975, le Balai Libéré à Louvain-la-Neuve. Cette entreprise de nettoyage en contrat avec l'UCL décide de licencier une partie de son personnel. Les ouvrières répondent par une grève et surtout par une lettre de licenciement de leur patron.
Monsieur, nous constatons après une étude approfondie de notre travail que nous pouvons parfaitement l'organiser entre nous. Nous en concluons donc que vous êtes absolument inutile et parasitaire. Nous sommes au regret de vous signifier votre licenciement sur le champ pour motif grave contre vos ouvrières. Ce licenciement a pris cours le mardi 25 février au matin, premier jour de notre grève.
On licencie le patron et son brigadier.
On licencie le patron et son brigadier.
On travaillera toute seule et on sera mieux payé.
On travaillera toute seule et on sera mieux payé.
Nous on reste là, on ne bougera pas tant que l'UCL ne nous écoute pas.
L'autogestion apparaît au milieu des années 70 comme un nouveau possible pour la classe ouvrière. Dépasser les institutions syndicales, briser la hiérarchie patronale, dépasser le capitalisme. Chez Salic à Carnion, une centaine d'ouvrières y croient. Elles tentent l'expérience dans leur usine. L'occupation commence par une fouille du bureau du directeur. Elles sont 6 à ouvrir les classeurs et éplucher les dossiers. Elles découvrent l'existence de grisou dans leur usine.
Et si on voit que l'usine était construite sur la charbonnage, donc normalement il y a du grisou qui s'échappe ici et qu'on risque à tout moment, enfin, d'après les documents qu'on trouve, qu'il faut faire quelque chose pour que le grisou s'échappe mieux.
Il y avait un danger d'explosion.
Oui, il y a encore des émanations de gaz de temps en temps. Alors il y avait des filles qui tombaient dans les pommes du fait qu'elles sentaient l'odeur de gaz. Mais Salic a refusé de faire des travaux parce qu'il disait que ça lui coûtait trop cher.
C'est ça,
et l'usine ne serait plus rentable de toute façon. Profit, il passe avant la sécurité.
La fouille continue. Les ouvrières découvrent que Salic importait des jeans depuis l'usine du Maroc et a organisé lui-même une mise en concurrence de son usine belge.
Bon, la société avait l'air comme ça, nous, travailleuses, qu'elle était propre, que tout, c'est à cause de la crise économique qu'on nous chantait que les emplois ont diminué, tout ça.
C'était vraiment
vraiment dégueulasse.
Il ne faut pas avoir peur des mots.
Donc, il a profité sur nous, quoi. Il a fait le maximum de bénéfices et tout, nous a exploités. Et il espère s'en tirer à bon compte. Mais nous, on attaque.
De toute manière, suite aux découvertes qu'on a faites, on voit bien que c'est une histoire qui était montée d'avant. C'était prévu.
Oui.
Il avait décidé de nous faire crouler et il l'a fait.
L'autoproduction commence chez Salic. Le 1er septembre, une première vente a lieu. Près de 4000 personnes se pressent à Carnion pour acheter des jeans à bon marché, mais aussi pour soutenir les ouvrières. On se presse autour de la table où s'entassent les jeans. Plus loin, on signe des pétitions, on boit du café et on descend des bières dans un brouhaha général. Au total, près de 1000 jeans seront vendus ce jour-là. De quoi relancer une production Dans le bureau du sous-directeur, une ouvrière retranscrit les ventes dans un grand carnet.
Ça a marché, les ventes ?
Oui.
Qu'est-ce que vous avez comme commande, à peu près ?
À peu près 1000 pantalons.
1000 pantalons ?
La journée de vendredi.
Ouais. Et tu étais ouvrière, tu t'es reconvertie en employée maintenant ?
Mais je recopie les commandes.
Oui. C'est la place de qui, là ?
Sous-directeur.
Ça te fait quelque chose d'être assise là ?
Ça.
Tu restes une ouvrière quand même ?
Oui.
Tu crois que tu peux remplacer un sous-directeur ?
Bah, je ne sais pas ce que j'ai.
Et tu le voyais à travers la fenêtre là, non ?
Bah oui, surveiller là.
Il intervenait parfois ?
Oui.
Comment ?
Bah, il sortait d'ici ou bien il frappait au carreau.
Pour dire quoi ? Aller plus vite ou ?
Bon, on ne pouvait pas parler, hein. Alors ils nous voyaient d'ici.
Après cette première réussite, les ouvrières, toujours épaulées par la CSC, créent la coopérative des sans-emploi pour continuer à produire. Elles découvrent d'abord le plaisir de travailler sans contremaître, sans sous-directeur et sans directeur, le plaisir de connaître des ouvrières qu'elles ne faisaient que croiser.
Ce qu'on fait, c'est d'essayer qu'on ne rachète pas ici pour qu'on ne pas retomber dans le même système et alors... On n'est pas une marchandise, on est un être humain, il faut quand même... on était des pions ici, mais on ne veut plus non plus être manipulé. On n'est pas une marchandise. Quoi. C'est par principe aussi. Pas pour l'argent, on n'est pas...
Premièrement, pour défendre notre emploi, qu'on dire qu'on ne veut pas le chômage, c'est tout. C'est pas question qu'on veut gagner plus. Pour prouver que les femmes savent arriver au moins à quelque chose.
Au fond, qui dirige dans l'usine ?
Ben, personne.
Tout le monde.
Tout le monde.
C'est-à-dire les 120 occupants.
Et ça restera toujours comme ça ?
On l'espère bien, oui. Oui. Notre principe, nous, c'est ça.
Que chacun ne se sache pas commander.
On ne veut pas recréer un système, même entre nous, sans le vouloir, avec des chefs, celles qui commandent, plus ou moins. On ne veut plus recréer cette ambiance. On veut que chacun prenne sa responsabilité, participe à tous les débats, à toutes les décisions. C'est ça qu'on veut exactement.
Mais les idéaux des premières semaines vont connaître de sérieux vents contraires. Des conflits internes, des ennuis judiciaires avec l'ancien patron Pierre Salic qui les attaque en justice pour copie de modèle. Et puis, la concurrence des pays à bas coût. Pour compliquer le tout, les pouvoirs publics ne soutiendront pas l'initiative et la CSC finira par jeter l'éponge et arrêtera de payer les indemnités de grève. Sans un sérieux capital de départ et à la marge du cadre légal, l'expérience Salic, comme beaucoup d'autres tentatives d'usines autogérées, se solde sur une défaite. Quelques mois après le lancement de la coopérative, la plupart des ouvrières vont pointer au chômage.
Mardi, je dois aller m'inscrire à l'ONEM, donc j'irai pointer pour la première fois mercredi. Je suis déjà bien gênée. Hein.
Gênée.
Pas parce que maintenant qu'on n'a pas réussi la coopérative, je suis déçue, fort déçue. Mais...
Pourquoi crois-tu que vous n'avez pas réussi ?
Parce qu'on n'a pas eu le fonds nécessaire. C'est pas possible, il faut avoir un capital de départ. Hein. On est déçus. On ne s'est même pas perdu, on est déçus. Ça a servi à quelque chose, ça nous a appris à prendre nos responsabilités, avoir l'impression qu'on pouvait réussir. On l'a espéré jusqu'au dernier moment, une semaine qu'on sait que c'est pas possible.
Tu vas retrouver du travail maintenant ?
Où ? Et je me demande bien en occupant si on nous retrouvera quand même du travail. Hein. Je me demande bien si on n'est pas sur une liste noire, comme quoi que les méchants gens, je ne sais pas moi. Le fait qu'on a lutté, on sait bien qu'on ne se laisse pas faire, qu'on ne se laissera plus exploiter comme on s'est toujours laissé exploiter. On a une autre forme de vie maintenant, alors ça, sauf que celui qui voudra nous engager, il réfléchira bien deux fois avant d'une. Alors moi je trouve que d'ouvrage, j'en aurai plus jamais. Rien du chômage, c'est tout ce que j'aurai.
Ainsi se termine l'occupation et l'autogestion de l'usine Salic de Carnion. Cette tentative avortée suscite un débat entre réalistes et utopistes dans le mouvement syndical. Mais quoi qu'il en soit, Salic reste un symbole. Symbole des luttes ouvrières d'après 68, qui tentait avec l'autogestion d'obtenir une émancipation du monde ouvrier, de le faire participer aux décisions économiques et de renverser ainsi les rapports de force. À l'image de Salic, l'autogestion est une page désormais tournée de l'histoire sociale. Un épisode qui a rarement survécu aux années 70. Dans les années 80, l'austérité et le néolibéralisme ont largement effacé ce qui restait de ses idéaux.
Nous, à Salic, on occupe.
On occupe.
Nous, à Salic, on se bat. Notre travail, c'est notre droit. Nous, nous battrons pour notre emploi. Nous, à Salic, on occupe.
On occupe.
Nous, à Salic, on se bat.
On se bat.
Salic ne fera pas la loi.
Pas la loi.
Nous voulons garder notre emploi.
Ils nous donnent du travail à cadence infernale. Mais quand les poches sont bien pleines, ils nous envoient chômer.
C'était la chanson de Salic par les ouvrières de Salic en 1978. Alors, Gaëlle Demey, je vais commencer par vous. C'est émouvant tous ces témoignages parce qu'on sait que cette expérience n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que ça vous a fait de les réentendre ?
Mais c'est émouvant parce que je trouve qu'on réentend les mêmes mots que ce que les travailleuses actuellement disent par rapport au respect dans l'entreprise, par rapport à l'expertise qu'elles ont et qui n'est pas suffisamment reconnue. Et alors les chants, je trouve que c'est vraiment gai parce que depuis voilà quelques années, on réinsuffle ces chants syndicaux, ces chants de militants et tout. Et donc je réentends les militantes actuelles en les écoutant à l'époque. Et c'est vrai que voilà, à la fois c'est une expérience triste peut-être et avec de l'amertume, et à la fois je trouve que c'est porteur d'espoir pour nous quand même encore actuellement.
Ouais, je rappelle que vous êtes responsable des femmes CSC et Gaëlle Demey. Nicolas Vorskuren, vous êtes historien. Historien des luttes sociales, en particulier du travail, et vous avez travaillé sur ces questions de l'autogestion. Ça arrive en Belgique dans les années 70 et vous avez écrit que c'était quand même une spécificité belge. Il y avait beaucoup de cas comme celui de Salic.
Oui, souvent quand on pense à l'autogestion en Europe, on pense à l'Italie, à la France, évidemment à la Yougoslavie. Et la Belgique n'apparaît presque jamais. Alors que nous avons eu une quantité d'expériences, on pourrait presque une vingtaine, voire une trentaine, en fonction de comment on les compte. Et puis surtout, ça c'est totalement inédit à l'échelle de l'Europe, c'est des autogestions qui ont perduré pendant 10, 15, voire presque 20 ans.
Pour certaines d'entre elles.
Pour certaines
d'entre elles. Beaucoup ont été courtes, certaines ont été plus longues.
Donc certaines, avec au sein du mouvement ouvrier chrétien, même la construction d'une, d'une association qui devait entretenir, soutenir et faire proliférer d'autres autogestions. Donc vraiment, il y a une spécificité belge. Alors, il n'y a pas eu que des autogestions en Belgique, mais vraiment une présence assez importante et longue. On parle de Salic, on est 78-79. En France, l'autogestion, à ce moment-là, disparaît pratiquement de l'espace médiatique et militant. Donc vraiment, il y a une singularité belge.
Et par exemple, l'expérience du bal est libéré qu'on a entendu, elle dure encore pendant toutes les années 80, celle-là, par
exemple. 1989, les sablières marchandes donc de Wautier-Brenne jusqu'à 1993-94, il faut voir. Ouais. Et puis les textiles d'air qu'on a mentionnés, c'est aussi jusqu'au début des années 90, survivant d'un incendie. Donc vraiment une longue histoire et très inédite au niveau de l'Europe.
On entend les chants des ouvrières, on entend qu'on est dans un moment de créativité. Quand même, en tout cas, en entendant le récit, c'est un peu ça qui ressort. Hein. Vous parliez d'utopie. Il y a une forme de joie, peut-être quelque chose d'un peu joyeux comme ça. Gaëlle Demey, à l'époque, on se dit vraiment que ce modèle de l'autogestion, ça peut être le modèle de l'entreprise du futur.
Oui, en tout cas, on essaye à fond. Je pense que voilà, effectivement, il y a des différences de vue syndicale, en tout cas entre les syndicats par rapport à ça.
Et pourquoi est-ce que la FGTB ne veut pas ? Alors, c'est peut-être pas la FGTB, mais
non, ça ils répondraient sans doute mieux que moi. Mais je pense qu'ils étaient restés à ce moment-là sur le fait que le patron c'est le patron, les syndicats sont les syndicats. Il y a un conflit social qui est là, enfin, qui n'est pas seulement une guerre, mais je veux dire qu'il y a un conflit social latent. On se respecte, on a un pacte social qui est là, dans lequel on respecte chacun son rôle, et donc on reste plutôt dans ce cadre-là.
À la CCC, vous vous dites, il y a un autre modèle et on fonce dedans.
Alors, c'est pas général.
Il y a un autre modèle possible.
Mais donc, je veux dire, c'est certaines franges de la CSC, c'est particulièrement dans le Brabant wallon, c'est particulièrement dans certains secteurs, c'est porté par certains permanents qui y croient particulièrement. Donc voilà, c'est pas général, toute la CSC. D'ailleurs, il n'y a aucun texte de congrès qui va à fond là-dedans. Mais en tout cas, on se dit, pourquoi pas le tenter et soutenir en tout cas la colère là où elle est là, les expériences là où elles sont là. Et je pense que ce soutien syndical et ce soutien politique qui existe aussi du coup à l'époque a permis que certaines initiatives de reprise d'entreprises comme ça perdurent dans le temps plus longtemps qu'ailleurs. Et plus longtemps, quand on parle de 10-15 ans, pour des ouvrières et des ouvriers, c'est pas rien. Enfin, je veux dire, c'est pas toute une carrière, mais c'est une bonne partie de la carrière quand même.
Oui, Nicolas Verskuren, sur cet aspect un peu particulier qu'a joué le mouvement ouvrier chrétien, la CSC, et ses relais politiques aussi à l'époque au sein du PSC, puisqu'il y avait une aile de gauche, démocratie chrétienne, etc. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez spécifique au mouvement de l'autogestion en Belgique. C'est qu'il y a eu un soutien institutionnel, puisque les syndicats sont des institutions importantes en Belgique.
Oui, alors on va peut-être juste élargir deux secondes la question. En fait, à la fin des années 60, début des années 70, au niveau du monde occidental, disons, il y a une crise au niveau de la démocratie économique. Elle ne fonctionne plus ou plus assez bien, il y a de plus en plus de critiques. Et ça résonne au niveau des États-Unis, de la France, de la Belgique. Et donc, au début des années 70, on cherche des nouveaux modèles. La FGTB va pousser vers le contrôle ouvrier. Et du côté de la CC, on va se tourner vers l'autogestion. L'autogestion qui a également beaucoup de succès parce qu'on pense tout de suite au modèle yougoslave, surtout déjà avant. Mais
et c'est quoi ce modèle yougoslave ?
Eh bien donc, je vais y venir. Donc, la Yougoslavie avait deux forces comme modèle. D'abord, c'est un pays non aligné. Et donc, dans toujours la guerre froide, on recherche des modèles pays non alignés. Et puis, c'est un modèle autogéré, qui décentralise beaucoup le mode de fonctionnement économique et politique. Alors très idéalisé, parce que dans les faits, ça ne marche pas aussi bien, mais on cherche un modèle. Si bien que ça va avoir des impacts en France, on en a beaucoup parlé, mais également en Allemagne, le SPD se tourne vers ce modèle-là. Au niveau de la Commission européenne, dans les années 70, s'intéresse beaucoup, beaucoup au modèle yougoslave et tente de mettre en place des directives pour démocratiser davantage les multinationales, les entreprises. Donc c'est quelque chose qui est au niveau européen, cette quête. Au niveau chrétien, donc c'est la même chose du côté français, avec la CFDT qui prend vraiment les rênes de ce modèle autogestionnaire. C'est pas toute la CSC, ça a été très bien dit, il y a vraiment quelques militants qui y croient. Et puis, il y a deux tendances. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui considèrent que cela doit faire partie de la médiatisation de la lutte. Un syndicat n'a pas pour objectif de faire fonctionner des usines. Les militants ne sont pas là pour ça. Et puis d'autres, non, il faut faire vivre ces autogestions pour montrer que ça marche, montrer notre modèle. Mais donc, il y avait une sorte de troisième voie permise par ce modèle-là et qui faisait écho finalement à une tendance au sein du mouvement ouvrier chrétien d'un nouveau radicalisme politique.
Alors on entend Gaëlle Demey à la fin du récit, une des ouvrières qui va pointer au chômage, qui dit ben voilà, maintenant il y aura plus d'ouvrage pour moi, il y aura plus de travail pour moi. À l'époque, pourquoi est-ce que ces femmes, parce que ça demande un certain courage, elles le disent aussi, pourquoi est-ce que ces femmes décident de se lancer dans l'occupation, dans l'autogestion de cette usine salique?
Parce qu'elles n'ont pas le choix. Alors, elles auraient pu aller pointer quelques semaines plus tôt. Mais il n'y a pas le choix. Elles savent très bien qu'on est en période de crise et qu'il n'y a pas d'autres emplois disponibles. Or, elles ont besoin de leur autonomie économique et financière, ce que l'histoire a gommé allègrement. Mais les femmes ont toujours travaillé pour un salaire, de la préhistoire à maintenant. Et ces femmes-là aussi travaillait et avait besoin de son salaire. Même si les politiques, 10 ans plus tard, ont dit que c'était un salaire rouge à lèvres, etc., au moment des réformes qui ont mené au statut cohabitant en chômage, d'ailleurs, elles en avaient réellement besoin pour faire tourner leur famille. C'est pas non plus... La question des familles monoparentales n'est pas actuelle. On l'a bien dit, il y avait une des ouvrières qui le dit, mais moi, je suis toute seule avec mon gosse, qu'est-ce que je fais? Et donc, ça existait déjà à ce moment-là, c'était peut-être moins généralisé, peut-être plus caché aussi, parce que bah, si on divorçait, c'était très très mal vu. Si on était veuve, bon, voilà encore tout. Mais donc, les femmes devaient travailler et elles avaient vraiment besoin de ce salaire pour vivre. C'était pas un salaire rouge à lèvres ou quoi.
Et elles l'ont pas forcément fait de manière idéaliste. Elles l'ont fait pour des raisons aussi concrètes.
Elles l'ont fait au moment où l'entreprise fermait. Donc, c'est pas un projet de quelques personnes qui se mettent ensemble et qui se disent on va repenser le monde autrement et donc créer une entreprise où tout est conçu de A à Z, comme ça peut être le cas dans d'autres systèmes de coopératives, voilà, y compris actuels. C'était pas ça. Là, c'est l'usine ferme. Le patron nous a eu. Il nous a trompés, il nous a volés, il nous a volés. Et on se rend compte à ce moment-là qu'en fait, on a une expertise. L'expertise sur le travail, c'est nous qui l'avons. Qu'est-ce qu'il fait dans son bureau? On ne sait pas. On va regarder dans ses classeurs et on se réapproprie le savoir. Et donc, je pense que c'est ça qui les rend très puissantes, c'est de se rendre compte qu'en fait, elles savent. Elles ont l'expertise sur leur corps de métier et donc elles se rendent compte qu'elles sont capables de le faire, en fait.
Oui, et d'ailleurs, pour la petite histoire, je ne l'ai pas dit dans le récit, moi, sinon voilà, ça dure 20 minutes, mais l'industriel Pierre Salic a été poursuivi en justice pour corruption. Il a finalement payé une amende judiciaire, une transaction. Donc le procès n'a pas été jusqu'au bout, mais manifestement, il y avait des choses qui se sont passées là qui étaient répréhensibles légalement. Alors, Nicolas Voskuren, sur l'aspect femme de cette affaire, bon, c'est une page de l'histoire ouvrière, de l'autogestion. Est-ce que c'est aussi une page du féminisme, c'est-à-dire du combat féminin? C'est ce qui s'est passé chez Salic et peut-être dans d'autres entreprises.
Alors, c'est assez difficile de répondre parce que il n'y avait pas dans ce type de mobilisation une idée de l'émancipation féminine. Et d'ailleurs, elles étaient assez réticentes à cette, je dirais pas instrumentalisation, mais oui, qu'on en parle, que ce soit ça l'enjeu. C'était ça l'enjeu, mais ça ne devait pas être la cause féministe, très très clairement. Le but, c'était quand même aussi de gagner sa vie. Donc, c'est un aspect quand même qui est présent sans être une revendication.
Mais comment est-ce qu'on explique qu'il y a beaucoup de cas d'autogestion où ce sont des ouvrières?
Alors, il y a plusieurs raisons à cela. D'une part, il y a souvent dans ce type d'emploi, pas forcément des délégués syndicaux qui ont soutenu ces conflits, même qui ont représenté convenablement ces ouvrières. Et donc, on a des militants extérieurs qui découvrent des situations parfois compliquées et qui soutiennent des luttes. Et souvent, eh bien, elles sont plus réceptives que dans d'autres endroits où finalement les choses sont beaucoup plus formalisées, beaucoup plus institutionnalisées, où on a des représentants qui sont peut-être plus efficaces, tandis que pour beaucoup de femmes, elles étaient finalement ouvrières, étaient pas forcément très bien représentées. Et donc, ceci, ça explique cet élément-là. Le deuxième élément, c'est que ce sont souvent des petites entités, des petites entreprises, 200, 300, parfois 50 ouvrières. Ce qui facilite faire une autogestion avec 1000 travailleurs, c'est très très compliqué, c'est voire même impossible. Des petits groupes de 20, 30, 50, 100, eh bien, ça peut marcher. Et ça marche dans un premier temps. Et parfois, ça marche pendant très très longtemps. Et donc, ce sont souvent ce type de structures où on trouve beaucoup davantage de femmes, parfois, qui facilitent cela.
La première, l'histoire continue. Hélène Maquet, Bertrand Haine.
Alors, Gaëlle Demey, en tant que responsable des femmes CSC, quel regard vous portez aujourd'hui sur ces expériences des années 70 et sur, alors pas toutes, encore une fois, on le répète, au même moment, mais ont quand même largement échoué et débouché, on l'a entendu dans cette histoire de Salic, finalement sur le chômage pour la plupart des ouvrières. Vous regardez ça avec une forme de, d'amertume ?
Alors je pense que l'amertume, elle est dans le chef vraiment des gens qui ont participé. Quand on écoute les militants de l'époque, effectivement, il y a une part d'amertume. À la fois, il y a quelque chose encore d'ému et d'assez beau par rapport aux souvenirs de la lutte. Et voilà, j'ai des collègues qui me racontent, mais moi je vendais des jeans et les montres lip, on les offrait à tout le monde à Noël parce que c'était vraiment l'utopie du moment, on y croyait à fond. Et effectivement, une forme une forme d'amertume évidemment qui vient en se disant mais on a mis toute cette énergie là et au final qu'est-ce qu'il en est ressorti. Après moi je pense que l'émission d'aujourd'hui est très utile parce que on gagne vraiment à redécouvrir cette partie là d'histoire et peut-être à la réanalyser effectivement avec un regard féministe qui n'était pas le regard de l'époque, en tout cas c'était pas une lutte féministe à la base, ou en tout cas sans le savoir, mais quand on le regarde maintenant, avec le regard d'ici, on se dit oui, mais en fait, c'est des enjeux éminemment actuels. C'est vraiment des enjeux d'égalité hommes-femmes qui traversent ça. Ce sont des femmes qui sont femmes peu qualifiées, ou en tout cas qui se pensent peu qualifiées, mais qui, en tout cas, n'ont pas beaucoup étudié, qui sont confrontées au système capitaliste de plein fouet, au système patriarcal aussi, parce qu'on voit vraiment qu'à un moment donné, même dans les mots qui sont utilisés, ce ne sont quand même que des petites femmes, ce ne sont que des petits gens.
Les chefs sont des hommes.
Les chefs sont tous des hommes directement, c'est le patron, ce sont les ouvrières. Et donc j'avais envie de citer aussi Monique Piton, donc, qui est une des ouvrières qui a vraiment mené la lutte chez LIP justement en France, et qui dit dans son livre qui s'appelle « C'est possible ». Une femme au cœur de la lutte LIP, justement. Et elle dit, les leaders considéraient les femmes comme de petites choses, pas très douées. Elle dit comme ça. Donc c'était vraiment les petites mains, en fait, les petites choses qui, visiblement, n'ont pas beaucoup de cervelle. Et elle dit aussi, il se référait à un théoricien socialiste, Pierre-Joseph Proudhon, apparemment, qui disait... les femmes, en fait, elles ont une infirmité, c'est vraiment une infirmité sexuelle qui porte sur le raisonnement des femmes. Et en réanalysant, finalement, avec ses collègues masculins, avec aussi les représentants syndicaux de l'époque, le conflit par la suite, ils avouent ça. Ils disent, mais oui, c'est vrai qu'on était quand même pétris de cette idéologie patriarcale, qui est encore là. C'est un système qui broie tout le monde, y compris les hommes, même de bonne volonté à l'époque, sans doute. Mais donc, du coup, voilà, je pense que ça apporte vraiment maintenant le fait de se dire... Allez, elles ont lutté. On était 10 ans après la grève des femmes de la FNR-STAL. Donc, je pense que c'est vraiment des luttes qui, en fait, ont permis les luttes actuelles. C'est une continuité. Et du coup, c'est vraiment utile d'aller rechercher, dans l'histoire, qui elles étaient, même de connaître leur nom et de s'en inspirer.
On va voir ce qu'il en reste aujourd'hui. Mais avec Nicolas Voskuren, historien, je voudrais voir d'abord le pourquoi ça n'a pas fonctionné. Enfin, pour la plupart, on entend dans le reportage une ouvrière dire « c'est parce qu'on n'avait pas le capital ». Il y a sans doute plus que ça quand même dans les raisons des échecs des expériences autogestionnaires.
Alors, de nouveau, il faut voir dans les expériences autogestionnaires,
il y en a qui ont fonctionné.
Non, mais c'est pas ça. C'est aussi qu'elles ont des profils très très différents.
Ah oui.
Il y en a qui, dès le début, avaient été conçues comme pour montrer, regardez, ça marche, on veut un repreneur. On cherche l'appui du ministère des Affaires économiques, de la région, etc. Très, très vite, c'était évident. On vous faisait fonctionner l'outil, parfois pour le maintenir, et parfois aussi, simplement, vous voyez, on a les compétences, on est motivé, et donc il n'y avait pas une volonté autogestionnaire finaliste, je dirais. Et donc, il n'avait pas pour vocation à fonctionner. Deuxième raison, c'est que souvent, ça se déroulait dans des secteurs qui étaient déjà sur le déclin. Et donc, on ne peut pas aller contre le vent et marée. Quand ça, c'est mort, c'est mort. Et puis, la troisième raison, pour Salic notamment, c'était très compliqué de rentrer sur les circuits commerciaux. Il y avait la dimension capitale de départ, mais moi, ce qu'on a pu vraiment voir dans les archives, c'était extrêmement difficile de créer des propres modèles, des modèles assez simples, et puis entrer dans des circuits de vente.
Faire de la distribution, quoi.
Ou dans la grande distribution, avec des compétitions de Levi's, Wrangler, des grosses. Et donc, même si on a la marque, on ne pourrait plus Salic, mais il y avait des réseaux militants, comme ça a été dit. c'était pas assez. C'était pas assez pour quelque chose comme Salic. Et puis d'autres ont bien fonctionné parce que le contexte était beaucoup plus favorable, soit sectoriel, soit militant, soit des ouvrières eux-mêmes qui sont parfois mieux organisées, parfois parce qu'elles arrivent à intégrer des cadres de l'entreprise. Et donc, vraiment, chaque cas est différent. Et donc, ce qui fait que ce n'était pas condamné, comme on a peut-être un peu le dire, d'office dès la fin des années 70. Et donc, ça pouvait fonctionner avec un contexte qui était favorable.
Gaëlle Demey, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ces idéaux autogestionnaires? Est-ce qu'ils ont fait des petits quelque part?
Mais il y a des initiatives d'autogestion qui existent encore maintenant, y compris en France, même en Wallonie. Hein, on a par exemple voilà, les Green New, ils fonctionnent en partie en autogestion.
Cinéma à Liège.
Les cinémas à Liège et à Namur. Avec une part, une personne, une personne, une voix, etc. Avec un mode d'organisation qui se veut le plus démocratique possible et qui fonctionne et qui est relativement rentable. En tout cas, ils ont passé la crise Covid, etc. Donc voilà, ça existe. Il y a les maisons médicales. Il y a quand même encore des initiatives qui sont là, qui sont toujours compliquées. Le lien avec les syndicats n'est pas toujours simple non plus, parce qu'il faut retrouver chacun sa place dans ce type de démocratie plus directe et plus partagée que ce que la démocratie qu'on essaie d'instituer dans les entreprises via les organes de concertation que sont le comité pour la prévention et la protection du travail, que sont le conseil d'entreprise, les négociations avec les délégations syndicales. Donc, d'abord, il reste des initiatives. Il reste aussi des initiatives avec des produits, du coup, de niche. Bah, par exemple, en France, il y a l'Ascopti, donc, qui est la coopérative qui a repris une usine Lipton, qui en a fait l'été 1336, qui sont 1336 jours de grève, en fait, pendant laquelle ils ont occupé l'entreprise. Et donc, ça marche parce qu'ils l'ont transformé en du thé bio, local. Ils ont transformé leur expertise. Et donc, il y a des gens qui sont là dans le marché, permet peut-être plus des marchés de niche actuellement, j'en sais rien, je ne suis pas économiste non plus, mais qu'à l'époque. Donc voilà, maintenant sur les valeurs, je pense que, y compris dans la lutte syndicale au quotidien qu'on peut avoir dans les entreprises, on garde certaines valeurs communes. Il y a quand même cette question, cette remise en question, ou ce questionnement par rapport au capitalisme reste, évidemment, revient avec force dès qu'il y a une délocalisation encore. Mais voilà, cette question-là nous préoccupe toujours. L'amélioration des conditions, des relations de travail, c'est quelque chose qui est vraiment préoccupant. La question du sens du travail est vraiment là aussi, parce qu'on voit que les travailleurs et travailleuses qui ont repris leur outil de travail, en fait, ils trouvent plus de sens, même si leur travail reste merdique. Enfin, je veux dire, si on nettoie, on nettoie. C'est difficile de nettoyer. Si on a la chaîne, on a la chaîne. C'est pas gai de nettoyer, même si c'est encore en coopérative. Mais il y a plus de sens parce qu'on se sent plus investi dans l'entreprise, donc on peut s'y sentir plus. Et ça, on peut l'être aussi quand on est simplement investi, notamment par la démocratie au travail, telle qu'on peut la vivre dans nos entreprises.
Oui, ça, c'est un thème aussi qui revient dans le travail de certains chercheurs, etc., chercheuses, le retour de la démocratie au travail. Nicolas Vorskuren, votre avis à vous sur ce qui reste aujourd'hui de ces idéaux autogestionnaires, et peut-être réagir à ce qu'a dit Gaëlle Demey, mais peut-être aussi, est-ce qu'ils ne sont pas parfois instrumentalisés, ces idéaux autogestionnaires, dans l'entreprise participative? Mais en fait, voilà, c'est un peu...
L'entreprise horizontale.
Voilà. Oui, de l'autogestion bashing. Non, pardon, l'autogestion washing. Voilà, il y a un peu de ça parfois, non?
Mais il y a trois choses. La première, c'est qu'on voit tout le temps des expériences autogestionnaires revenir. On a eu les entreprises récupérées en Argentine, ça a vraiment... On vient de parler de ce qui s'est passé en France, avec le soutien même à l'époque de François Hollande. Enfin, voilà, ça revient de manière épisodique. La deuxième chose, c'est qu'on a parlé aussi beaucoup des échecs. Et en fait, ce que Marc Salic, entre autres, c'est... un échec d'un monde ouvrier qui change, qui parvient à faire changer les structures. Et à partir des années 80, on va avoir toute une série de militants externes au monde ouvrier qui va moins s'intéresser au monde ouvrier parce que le combat est perdu. Et donc, l'héritage des échecs autogestionnaires, c'est ça aussi. C'est tout d'un coup un désintérêt progressif, pas tellement en Belgique, mais dans certains pays, notamment en France, pour le monde ouvrier. Ça, c'est très, très... Je pense que l'échec autogestionnaire, c'est un peu ça aussi. Et puis, le troisième point, vous l'avez très bien dit également, c'est qu'il y a beaucoup d'idéaux sortis de mai 68 qui va être récupéré par le monde managérial, c'est-à-dire l'entreprise créative, où il faut, voilà,
l'entreprise apprenante.
La démocratie, la fluidification des responsabilités, du mode de fonctionnement, et qui, en fait, ils vont récupérer beaucoup d'idéaux, on va dire, critiques du capitalisme, va se réinjecter dans des modèles managériels. Alors, pas en bon ou en mauvais, c'est pas la question, mais simplement, ça va être réactivé dans le monde du travail.
C'est quand même une des spécificités aussi du capitalisme, de pouvoir digérer comme ça toutes les critiques qui lui sont faites de l'extérieur.
Allez, on aura fait résonner l'histoire avec le présent comme jamais,
tout à fait.
Aujourd'hui. Merci beaucoup Nicolas Verscuren, historien à l'ULB, d'avoir été avec nous.
Merci Gaëlle Demey, donc vous êtes responsable des femmes CSC, et un merci particulier aussi à Martine Plénus, qui était notre archiviste, qui nous avait attiré notre attention.
Mis sur la voie des ouvrières de Salic il y a quelques années.
La richesse de notre patrimoine en archives sur cette histoire de Salic. Martine Plénus, qui nous a quittés en 2019. On pense évidemment bien à elle.
Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce que nous faisons chaque semaine dans l'Histoire continue.
Avec l'aide des archives de la Sonuma et à la réalisation, Jonathan Remy.